Vous écoutez IDFM, il est 11h.
Bonjour à toutes et à tous, Christophe Gravreau au micro d'IDFM Radio. Bienvenue dans notre balade musicale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yves Henry pour nous parler de sa riche actualité. Un nouveau double album consacré à la double intégrale des 19 valses de Chopin, l'une enregistrée en public sur un Pleyel de 1837, c'est-à-dire de l'époque de Chopin, l'autre enregistrée en studio sur un Bechstein de concert d'aujourd'hui qui paraît ces jours-ci sous le label Soupir Édition. Et la 57e édition de Nohant Festival Chopin, dont Yves Henry est le président. Nous avons eu le plaisir d'assister hier soir, cher Yves, à la salle Cortot à Paris, au concert très festif de présentation de la programmation du Festival 2023, avec pour thème les voyages de Chopin. Bonjour Yves Henry.
Bonjour.
Je suis ravi que nous puissions nous entretenir de votre foisonnante actualité ayant Chopin, bien sûr, pour dénominateur commun. Avant d'évoquer la nouvelle édition du festival, qui se déroulera du 3 juin au 26 juillet, nous allons, si vous le voulez bien, parler de votre nouveau disque, cette double intégrale des 19 valses de Chopin. Mais rappelons à nos auditeurs que vous avez eu deux maîtres d'exception, les grands pianistes et pédagogues Pierre Sancan et Aldo Ciccolini. Au CNSM de Paris, vous êtes lauréat de pas moins de 7 premiers prix, piano naturellement, mais aussi musique de chambre, harmonie, contrepoint, fugue, accompagnement et direction de chant. Vous remportez le premier grand prix du concours international Robert Schumann à Zwickau. Et c'est le début d'une carrière internationale. Vous produisez en récital ou avec orchestre dans la plupart des pays d'Europe, aux États-Unis et en Asie. Vous êtes invité dans de très nombreux festivals, La Roque-Nanthéon, Chopin, Bagatelle, etc., en France et à l'étranger. Vous enseignez l'harmonie au CNSM de Paris et le piano et la musique de chambre au CRR de Paris. Vous donnez des masterclass dans de prestigieuses universités aux États-Unis et au Japon et vous faites partie des jurys les plus fameux comme notamment le concours Chopin à Varsovie qui aura lieu en octobre prochain. Depuis 12 ans, vous présidez aux destinées du Nohant Festival Chopin après en avoir été le directeur artistique depuis 25 ans, m'avez-vous dit hors micro. Vous avez à votre actif de nombreux disques consacrés notamment à Robert Schumann, Franz Liszt et naturellement Frédéric Chopin, avec en particulier 24 préludes en deux versions, Pleyel 1837, et c'était la première fois qu'on gravait ces préludes avec des pianos historiques, et un Pleyel 2004 en DVD et en CD, qui ont marqué l'interprétation de Chopin. L'intégrale en 4 CD des œuvres composées par Chopin à Nohant avec un livre « Les étés », qui était un peu long d'ailleurs, de Chopin à Nohant. Le dernier concert de Chopin à Paris, 16 février 1848, enregistré sur piano Pleyel 1837, l'intégrale des mazurkas sur un Pleyel 1837, et l'an dernier, la chambre enchantée, sous le label Soupir Édition, dont vous étiez d'ailleurs venu nous parler à ce micro. C'était un florilège des grands chefs-d'œuvre de Chopin à Nohant. Une première question alors, Yves Henry. Pourquoi enregistrer à nouveau des valses de Chopin qui ont été gravées à de très, très nombreuses reprises par les plus grands pianistes de l'histoire et aussi par vos confrères d'aujourd'hui?
Alors, j'ai deux réponses. La première, d'abord, c'est que je me suis pris d'affection pour ces valses en les jouant au concert. Et j'ai vraiment adoré proposer cet enchaînement d'œuvres dont certaines sont très connues et d'autres beaucoup moins, voire pas du tout, quelquefois, et qui dresse un portrait, non pas de Chopin lui-même, mais finalement un peu du public qu'il avait, parce que ce sont des œuvres de circonstances beaucoup plus que d'autres dans la production de Chopin. Et ces valses, c'était pour pour jouer dans les salons, c'était pour se faire admirer, se faire reconnaître, se faire accepter d'un certain milieu, ce qu'il a parfaitement réussi d'ailleurs. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que ce serait aussi plus tard des œuvres qui véhiculeraient sa musique aux quatre coins du monde, parce que certaines de ses valses sont pratiquées aussi par beaucoup de pianistes amateurs. Donc c'était d'abord ça, la première affection que j'ai eue pour ses valses, c'est de les jouer en concert. Et je me suis rendu compte que c'était un programme absolument passionnant, et donc j'ai voulu l'enregistrer, mais proposer quelque chose de... Effectivement, vous avez raison, elles ont été enregistrées de nombreuses reprises et par de très très grands artistes, et je voulais proposer donc quelque chose de différent qui soit et qui dans lequel je puisse un peu expliquer aux gens, parce que ça a un côté un peu didactique aussi, et leur faire comprendre quelle est la différence finalement fondamentale entre le piano de l'époque de Chopin et celui d'aujourd'hui, et en juxtaposant ces deux disques qui sont donc sur deux générations de pianos complètement différents, j'essaye de leur montrer où se situe finalement une musique qui est évidemment bien sûr universelle, mais quand on l'écoute, si on se plonge dans le disque sur piano d'époque, tout à coup on entend quand même quelque chose de différent de ce que l'on a entendu jusqu'à maintenant. Voilà. Et dans le livret, je donne aussi quelques clés pour justement peut-être attirer l'attention des auditeurs sur des points précis.
Il y a un livret qui est passionnant d'ailleurs, et c'est vrai, il faut l'indiquer, parce que maintenant les nouvelles générations écoutent les disques sur des plateformes, mais malheureusement, ils n'ont pas l'accès au livret souvent, et le livret, on apprend beaucoup de choses.
Tout à fait.
Alors est-ce que c'est la première fois dans l'histoire du disque qu'il y a cette juxtaposition de deux versions? Les valses sur piano ancien, les valses sur piano moderne.
Ah oui, ça je crois. Et c'est passionnant. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu le faire. C'est que vraiment, il faut pouvoir, je dirais, jouer aussi bien d'un instrument que de l'autre, car ce sont véritablement des instruments différents. Donc il faut être très habitué à l'instrument ancien pour pouvoir les jouer et les avoir aussi beaucoup joués sur le piano moderne, bien sûr.
Nos auditeurs vont pouvoir comparer les deux versions de la Grande Valse Brillante numéro 4, opus 34 numéro 3 en fa majeur, qui vont être interprétées successivement par notre invité, le pianiste Yvan Ry. Voici d'abord la version sur instrument d'époque, un Pleyel de 1837, et il y aura après la version sur piano moderne. Après la version sur un Pleyel de 1837, voici maintenant l'interprétation de notre invité Yvan Ry sur un piano moderne, Bechstein, de la Grande Valse Brillante, opus 34 numéro 3 de Chopin. Frédéric Chopin. Nous écoutions la seconde version sur piano contemporain de la grande valse brillante opus 34 numéro 3 par Yves Henry, notre invité, extrait de ce double album passionnant qui sort sous le label Soupir Édition. Yves Henry, dites-nous les raisons techniques, mais pas seulement, pour lesquelles il est passionnant de pouvoir redécouvrir ces chefs-d'œuvre, au fond comme les auditeurs de Chopin pouvaient les entendre dans les salons, et également comme il y a aujourd'hui dans nos grandes salles, comme par exemple la Philharmonie de Paris.
Alors, je dirais que l'essentiel réside bien sûr dans la différence fondamentale entre les deux types d'instruments. À l'époque de Chopin, le piano est un instrument qui est destiné au salon, donc il a un mode de production du son qui est un mode par rayonnement. On peut pas identifier précisément d'où vient le son. Sur un piano moderne, donc créé après 1850, le piano avec cadre en métal extrêmement puissant, on projette le son pour aller dans les grandes salles. Donc la différence est considérable dans le mode d'émission du son et dans la sonorité elle-même, qui est moins forte et qui est, en revanche, qui a une durée plus longue. Donc ça a des incidences dans beaucoup de domaines, dans le domaine du tempo, dans le domaine du côté cantabile, les chantants dont Chopin était vraiment, c'était son obsession de faire chanter l'instrument. Ça, c'est un grand avantage parce qu'on ne sent pas du tout le marteau qui vient frapper les cordes. Au contraire, on a quelque chose qui est beaucoup plus velouté et qui permet d'avoir un jeu chantant plus naturellement que sur le piano moderne qui a des marteaux qui frappent quand même les cordes d'une manière très très puissante. Donc ça, c'est le premier point. Et il y a d'autres points qui rentrent en jeu aussi, c'est que le toucher est très différent pour l'interprète, il est beaucoup plus sensible. Donc il y a toute une relecture, et passionnante d'ailleurs, hein, je le dis tout de suite pour les interprètes, c'est pour ça que beaucoup de jeunes musiciens, pianistes s'intéressent à ça aussi maintenant, parce qu'on redécouvre notamment, dans la sonorité des accords, on entend des harmoniques qu'on n'entendait pas forcément sur les pianos modernes, qui sont plus puissants, qui sont plus généreux dans le son, plus brillants aussi, mais qui ont tendance un peu à niveler toutes les notes en les rendant égales. Sur le piano d'époque, on n'a pas ce phénomène, et donc c'est intéressant parce qu'on a une relecture notamment de toute la polyphonie qui est aussi beaucoup plus facile à rendre et beaucoup plus claire pour l'auditeur.
Alors j'avais deux points, la question des aigus d'abord.
Oui, alors les aigus, c'est l'endroit le plus... on disait à l'époque, Chopin lui-même disait, la sonorité cristalline, la sonorité voilée quelquefois. Alors en vérité, on sait que ces aigus, ils ont un problème, c'est qu'ils sont faibles. Alors,
sur les pianos anciens.
Oui, sur les pianos d'époque. Aujourd'hui, ils sont tout à fait équivalents à tout le reste du piano. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'une part, ces aigus ont ce défaut, mais qui peut devenir aussi une qualité si le compositeur en tire parti, ce qui est tout à fait le cas de Chopin, qui utilise ses aigus justement d'une certaine façon parce qu'il sonne de cette façon. Et c'est donc très intéressant de confronter l'instrument ancien, de se confronter à la difficulté que ça représente de jouer avec ça. Mais quand on comprend, on relit la partition différemment et on la rend aussi, parce que c'est ça le but du jeu, le but suprême, c'est de rejouer aujourd'hui sur l'instrument moderne, mais en tirant parti de ce qu'on a compris de l'instrument ancien.
Mais il y a une interaction.
C'est exactement ce que j'essaye d'expliquer dans le livret. C'est que l'influence de la connaissance du jeu sur piano ancien trouve aussi son application dans le jeu sur le piano moderne.
Et par rapport au rubato chez Chopin, est-ce qu'il y a quelle est la différence? Comment faut-il pratiquer, si je peux dire?
Alors le rubato, il va être influé justement par la longueur du son et aussi par la clarté du jeu polyphonique qui est plus grande sur le piano ancien. Donc on peut dire que le rubato va se trouver affecté aussi, mais c'est pas d'une manière, automatique, c'est vraiment parce que le son est différent. Et d'ailleurs, on se rend compte dans certaines des valses de cette double intégrale que certaines ont une durée très différente selon qu'elles sont jouées sur le piano moderne ou sur le piano ancien. Et pourtant, quand on écoute séparément, on n'en a pas forcément conscience. Donc c'est ça qui est très intéressant. Tout est relatif finalement dans la musique.
On n'en a pas forcément conscience parce que ce sont des chefs-d'œuvre et que l'écriture de Chopin est quasi parfaite aussi.
Ah mais ça, j'en suis le premier convaincu. Et on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est en tout cas un génie incomparable qui nous enchantera toujours.
Il n'y a pas trop de notes chez Chopin.
Non, jamais.
Nous allons poursuivre cette discussion après avoir écouté un second exemple avec la valse numéro 7. Opus 64, numéro 2, en ut dièse mineur, sous vos doigts, Yves Henry, première version avec un piano Pleyel de 1837. Après la version sur piano historique, voici maintenant la version sur piano Bechstein, toujours par Yves Henry, notre invité sur IDFM Radio. Thank you. seconde version sur piano contemporain de la valse numéro 7, opus 64, numéro 2 de Chopin par notre invité, le pianiste Yves Henry, un extrait de l'intégrale, de la double intégrale, je dirais-je, des valses de Chopin qui paraît sous le label Soupir Édition. Vous avez des dates de concert, Yves Henry, bien sûr.
Oui, oui, et la plus proche, c'est justement ce week-end, avec deux concerts dans ce fameux salon romantique où nous avons enregistré ce Pleyel de 1837. Et il y aura un premier concert samedi soir parce qu'on inaugure un piano qui est de Pleyel aussi, mais qui n'est pas un piano à queue, qui est ce qu'on appelait à l'époque un pianino, donc de l'époque de Chopin. Chopin adorait ces instruments, il en avait un chez lui en plus d'un piano à queue. Et c'est de ce piano qu'il donnait ses cours à ses élèves. Un piano avec un toucher très très sensible aussi, et qui a d'ailleurs participé au succès de, on va dire, phénoménal de Pleyel à l'époque romantique, puisqu'ils ont énormément produit cet instrument pendant quasiment tout le 19e siècle. Et ça sera samedi en fin de journée, et puis dimanche également en fin de journée. Là, je jouerai cette fois-ci l'intégrale des valses de Chopin sur le piano 1837, le Pleyel sur lequel elles ont été enregistrées, à l'endroit même où elles ont été enregistrées. Donc ce salon romantique, il est au Château Chanorier à Croissy-sur-Seine, petite commune des Yvelines, proche de Paris et de Saint-Germain-en-Laye de l'autre côté, qui est au bord de Seine, et c'est un très très joli endroit. Donc le salon romantique, il est là avec plusieurs instruments actuellement exposé, qu'on joue. Et donc ça, c'est une belle occasion justement d'entendre ces valses dans un contexte qui n'est pas celui d'une salle de concert, mais d'un salon comme à l'époque.
Ça, c'est formidable.
Et toutes les informations sont sur Internet. Donc pour retrouver les horaires précis et le programme détaillé, il suffit de taper, je crois, playelcroissy.com et on tombe dessus.
Voilà. Oui, c'est très facile. Alors, il y aura aussi des tournées. Vous allez partir pour le Japon.
Oui, oui, le Japon qui est un pays qui adore la musique, qui adore les musiciens français, qui adore la musique française, mais aussi, évidemment, Chopin. Donc j'y vais très très couramment, deux ou trois fois par an, et là j'y retourne au mois d'avril, et on organise d'ailleurs en même temps un petit concours pour dénicher de jeunes talents japonais qui interprètent Chopin, et j'ai hâte de les entendre parce que je sais qu'il y a beaucoup beaucoup il y a une grande ferveur autour de Chopin.
Puis il y aura aussi la Belgique. Vous allez jouer le premier concerto de Chopin.
Oui, qui est le concerto avec lequel Chopin lui-même, d'ailleurs, voulait toujours se faire connaître. Il ne jouait jamais le deuxième, enfin celui qui porte le numéro 2, mais qui est en réalité le premier. Et il jouait toujours ce premier concerto. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître à Paris. Son premier concert, c'était avec cette œuvre.
Pourquoi d'ailleurs plutôt le premier que le deuxième ?
Mais je pense qu'il était convaincu lui-même que c'était une œuvre d'une plus grande ampleur, qui avait plus de portée. J'adore les deux, mais il est certain que le premier a quelque chose de plus équilibré, de plus vaste, de plus grande dimension. Voilà, et je pense qu'il le sentait lui-même plus proche de ses aspirations en tant que compositeur.
Parlons maintenant, Yves Henry, de Nohant Festival Chopin, dont c'est la 57e édition, et de la très festive soirée d'hier, avec le concert de présentation de la programmation du festival sur le thème « Les voyages de Chopin à la salle Cortot ».
Oui, la salle Cortot et l'École Normale de Musique, ils sont un de nos partenaires avec lesquels on a plaisir à travailler, parce que on a des valeurs communes qui sont de transmettre aussi pédagogiquement, et puis de cet amour pour Chopin que Cortot a été dont Cortot a été un représentant quand même extraordinaire. Et cette soirée à la salle Cortot, c'est oui toujours un moment plein d'émotions, de ferveur, parce que un certain nombre de jeunes talents qu'on présente comme ça au public, et c'est à la fois un peu le coup d'envoi de la saison, et aussi l'occasion de faire briller certains jeunes sur cette très belle scène de la salle Cortot avec une magnifique acoustique, et de les entendre dans ce qu'ils ont choisi, donc quelques minutes seulement, mais qui donne tout de suite un avant-goût de leur talent.
Et ça donne envie.
Voilà, c'est le but.
Nous avons applaudi hier la pianiste Fanny Azzurro, qui a eu un parcours original avec l'aventure du Spiritango Quartet, un répertoire autour d'Astor Piazzolla, tout en poursuivant une carrière de pianiste concertiste. Et son dernier disque a été consacré aux 24 préludes de Serge Rachmaninoff, et il a d'ailleurs été très bien accueilli par la critique. On va écouter ensemble, si vous le voulez bien, Yves, le fameux prélude opus 3 numéro 2 de Serge Rachmaninoff par Fanny Azzurro. Thank you. Nous venons d'écouter le fameux prélude opus 3 numéro 2 de Rachmaninov par Fanny Azzurro, qui était invitée hier soir dans le cadre du concert de présentation de la prochaine édition du Nohant Festival Chopin. Quand va-t-elle se produire à Nohant et que va-t-elle jouer?
Elle va se produire dans un des tout derniers concerts du mois de juillet, le 25 juillet. On termine le 26, donc vous voyez, c'est l'avant-dernier concert. Oui. Et elle partagera ce concert d'ailleurs avec Guillaume Vincent, qui est aussi un des jeunes interprètes qui voue une admiration sans borne à Rachmaninov, au point d'être en train d'enregistrer tout ce que Rachmaninov a écrit pour piano seul. Voilà. Et je souligne qu'hier soir, il y avait dans l'assistance l'arrière-petite-fille de Serge Rachmaninov, Alexandra connu Rachmaninov, et donc elle sera là aussi à ce concert du 25 juillet pour les écouter et les applaudir.
Ça, c'est vraiment très bien. Ce sera un moment d'émotion.
C'est ça, voilà. Ouais, et ça sera un hommage rendu à Rachmaninov, mais où ils joueront aussi bien Fanny Azzurro que Guillaume Vincent. Ils joueront aussi un peu de Chopin pour montrer aussi quelle est la filiation entre Chopin et Rachmaninov, parce qu'il y a une véridique filiation.
Vous avez également invité à ce concert d'hier soir, à la salle Cortot, la jeune mezzo-soprano d'origine russe, Victoria Cherechevskaya, qui était d'ailleurs pianiste de formation. Et il faut dire que, on peut souligner que Victoria est la fille de Rena Cherechevskaya, une professeure de piano qui a eu des élèves comme Alexandre Kantorov, qui a remporté le fameux concours à Moscou il y a quelques années, et qui fait une carrière extraordinaire, Lucas de Bargue et beaucoup d'autres, à l'école normale de musique Alfred Cortot. Qu'a-t-elle chanté hier soir ?
Elle a chanté trois airs, et elle a chanté Forêt, elle a chanté Chaminade, et elle a chanté
Rachmaninov, bien sûr.
Voilà.
Écoutons un extrait de son premier disque, Variations secrètes, un menuet pour voix, violon et piano, composé en 1904 par la compositrice Cécile Chaminade, qui était aussi une pianiste française célébrée dans le monde entier. La mezzo-soprano Victoria Cherechevskaya vient d'interpréter un menuet de Cécile Chaminade avec la violoniste Alexandra Soum et le pianiste Rémi Genier. Quand chantera-t-elle cet été à Nohant ?
Alors elle va chanter dans un des week-ends de juin, le 18 juin, et elle chantera aussi, et ça j'y tiens beaucoup parce qu'elle fait partie de ces jeunes artistes qu'on encourage, donc on fait découvrir aussi au public de Nohant. Elle chantera aussi dans un tout petit village de l'Indre, à Paluau-sur-Indre, dans l'église, et c'est aussi un privilège pour les gens du département que de pouvoir entendre ces jeunes sans forcément se rendre à Nohant, parce que vous savez comme moi que quelquefois il y a des gens qui n'osent pas aller au concert quand il y a tout le décorum, mais quand c'est proche de chez eux, plus simple d'accès, alors ils y vont. Donc c'est aussi ce qu'elle fera. Elle sera aussi accompagnée par sa mère, dont vous avez dit que c'est une grande pédagogue à juste titre, mais dont il faut rappeler aussi que c'est une grande pianiste.
Avant en plus.
Tout. Mais oui.
Et d'abord. On va vous entendre aussi, Yves-Henri, à ce festival.
Oui, alors c'est vrai que je n'ose pas trop en général me programmer, mais cette fois-ci, comme il y avait cette tournée en Belgique où je joue le premier concerto de Chopin, l'orchestre de chambre avec lequel je vais jouer viendra à Nohant pour le premier week-end et nous jouerons ensemble le premier concerto de Chopin. Et puis, j'accompagnerai aussi une jeune violoniste formidable, s'appelle Raphaël Moreau, qui jouait aussi hier soir.
Grande famille de musiciens.
Voilà, et dont j'aurai le plaisir d'accompagner, notamment dans des grands chefs-d'œuvre comme la première sonate de Brahms, la sonate de Franck et quelques pièces de Tchaïkovski. Donc ça va être un grand plaisir pour moi.
Alors, quels vont être les autres moments forts du festival, Yves-Henri ?
Les moments forts, ce sera l'ouverture avec Nelson Gerner, parce que c'est un grand chopinien, et c'est vraiment un artiste complet, et qui est venu déjà plusieurs fois à Nohant, mais il n'avait pas pu revenir ces dernières années. Donc, on est très très content que ce soit lui qui fasse l'ouverture le 3 juin. Le samedi 3 juin. On va avoir aussi des jeunes formidables, comme Alexander Malofeyev, comme on dit, le 10 juin, Mao Fujita, le 11 juin. Vous voyez, en un week-end, on aura à la fois Malofeyev et Fujita, et puis surtout le grand Leif Hovensnes, qui n'est jamais venu à Nohant.
Ah,
ça faisait plusieurs années qu'on essayait de le faire venir. On a enfin réussi. Il sera là le 24 juin. Et puis, vous savez que le festival continue en juillet, pendant toute une semaine, sous une forme un peu différente, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et là, on aura Alexander Gadjiev en ouverture, le 20 juillet. Joseph Moog, qui jouera les trois sonates.
Excellent pianiste allemand.
Voilà, tout à fait. Et entendre les trois sonates de Chopin au même concert, ça c'est très rare, parce que personne ou presque joue la première qui est méconnue. Bon, comme disait Chopin lui-même en révisant la partition à Nohant pendant un des étés qu'il passait là-bas, et en écrivant à sa famille, il disait « Je révise pour l'édition cette première sonate dont je me demande s'il n'est pas un peu tard pour la publier. » Donc il avait conscience quand même que c'était d'un autre style que ces deux autres sonates. Et puis il y aura aussi de la musique de chambre, il faut le rappeler, avec Camille Thomas et Julien Brocal, dans un très beau programme autour du violoncelle, qui était l'instrument favori de Chopin après la voix et avant le piano, il faut le savoir. Et puis le trio métral aussi, un jeune trio. Voilà, donc il y a énormément de choses, c'est très varié, beaucoup de jeunes, exceptionnels, et c'est un peu le temple du piano, Nohant, pendant l'été, en juin, en juillet, et on aura plaisir à entendre à la fois de ces grands comme Leif Hovensnes et ces jeunes comme Mao Fujita ou d'autres.
Information et réservation à l'Office du Tourisme 134 rue Nationale 36400 La Châtre, téléphone 02 54 48 46 40, par internet réservation-nohant@hotmail.com. Alors comment venir ? Par le train, ligne Paris-Gare d'Austerlitz-Châteauroux en 1h55 ou depuis Paris 300 km par l'autoroute.
Ou en diligence, comme à l'époque de Georges Sand, en 24 heures. J'ajoute qu'il y a un site internet qui permet d'avoir toutes ces informations, qui est tout simplement festivalnohant.com.
Voilà. Et il fallait le dire aussi.
Oui, il faut le dire parce que il est justement en ligne depuis hier soir, puisque c'est la soirée de Cortot qui lance, l'édition du festival.
On va vous écouter, Yves-Henri, dans un nocturne de Frédéric Chopin, opus 48, numéro 1. Thank you. Notre invité Yves Henry vient d'interpréter sur IDFM Radio le Nocturne opus 48 numéro 1 de Chopin un piano.
Voilà, c'est ce que j'allais préciser, c'est que là, c'est le piano Pleyel 1839, ce n'est pas sur le même disque bien sûr que les valses, et c'est un disque, on vous avait dit tout à l'heure, j'étais venu en parler l'année dernière, qui s'appelle Chopin, la chambre enchantée, qui a été enregistré, c'était une première, dans la maison de George Sand, justement là où Chopin a composé ses grands chefs-d'œuvre, avec un piano Pleyel de 1839 tout à fait particulier, et c'était pour moi une immense émotion que d'enregistrer, de jouer ses pièces dans la maison même, la nuit, juste en dessous de la chambre de Chopin, c'était vraiment quelque chose, et j'espère que ça s'entend.
Ah, c'était un très très beau disque. Avant de se quitter, Yves Henry, on va vous écouter à nouveau dans un dernier extrait de votre nouveau double CD comprenant une double version des 19 valses de Chopin, et on va vous écouter cette fois-ci sur un piano moderne, dans une valse peut-être un peu moins célèbre, la valse Opus Posthume en mi mineur.
Thank you.
Nous écoutions la valse opus posthume en mi mineur de Frédéric Chopin par notre invité Yvan Ry sur un piano Bechstein, donc un piano moderne. Merci beaucoup Yvan Ry.
Merci à vous.
Très bonne journée et nous vous souhaitons bien sûr de très bons concerts et un très beau festival à Nohant pour cet été. C'est à partir du 3 juin prochain jusqu'au 26 juillet.
Au domaine de Georges Sand, qui est géré par le Centre des Monuments Nationaux, notre partenaire principal depuis beaucoup d'années et avec un grand, grand plaisir.
Quant à moi, je souhaite un bon week-end à nos auditeurs. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle balade musicale à 11h. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission en vous connectant sur le site d'IDFM.fr. Merci à Francky à la technique et bien sûr, restez à l'écoute de nos programmes avec maintenant les informations.
Thank you.
Le restaurant L'Aérodrome vous accueille du mardi midi au dimanche midi et le vendredi et samedi soir avec soirée à thème et soirée dansante Lounge Club à partir de 22h. Possibilité de privatisation pour vos fêtes d'anniversaire, baptême, mariage ou repas d'affaires. Restaurant L'Aérodrome, rue du Moutier à Moisselles, une cuisine traditionnelle et faite maison. Rendez-vous sur Instagram pour suivre l'actualité des événements.
Tous les dimanches soirs, de 21h à 22h sur IDFM Radio, L'Onde Poétique vous propose une émission, Dis-moi ta poésie, Rencontre francophone, L'invitation au voyage et Fragments poétiques.
Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'île de France. Coucou, c'est Delphine Lemoine. Ne manquez pas vos rendez-vous jazz et java tous les dimanches de 8h à 9h
sur IDFM 98.
À très vite.
Latina, Latina.
Tous les vendredis de 19h à 20h, c'est IDFM Latina. 100% musique latine sur IDFM Radio.
Latina.
Salsa, merengue, bachata, kizomba, reggaeton et bien d'autres. La soirée Caliente, c'est IDFM Latina, tous les vendredis de 19h à 20h sur IDFM.
La radio d'Oubiermet.
J'adore.